Eh oui, aime l'été, deuxième moitié d'heure, et cette fois-ci, notre sujet, ça va être quelque chose. Alors, on accueille Rosie Bertrand et André Bouffard qui vont nous parler du balado Apéro Sexo. Mm-hmm. Alors, on parle de sexualité avec vous. Alors, vraiment, ça fait du bien, aime l'été. Alors, ouais. Voilà, on s'envoie un peu en l'air.
Mais moi, je tiens à spécifier toutefois que vous êtes deux professionnels du milieu. Oui. Vous êtes deux sexologues.
En fait, on a fini notre bac en sexologie. Quand tu finis le bac, tu peux décider de faire partie de l'ordre. Ouais. Nous, on a décidé de ne pas faire partie de l'ordre pour pouvoir avoir la liberté de parler des sujets qu'on veut, de notre vie personnelle. Et avec le balado, c'est sûr que pour nous, c'était un peu plus compliqué si on voulait faire partie de l'ordre.
Ouais. Donc, ça, c'était quelque chose d'intéressant. Là.
Oui, c'est pour ça qu'il y a autant de balados où c'est pas des spécialistes.
Ben,
parce que souvent, des comédiens, des animateurs qui animent des balados sur le sexe, mais j'étais vraiment surprise de voir deux filles comme vous, deux sexologues.
C'est ça. Fait que sexologue, c'est un titre protégé. Fait que nous, on dit professionnel en sexologie, qui n'est pas un titre protégé.
Exact. On trouvait qu'il y avait de la valeur à parler de nos expériences personnelles pour faire de l'éducation à la sexualité grand public.
Qu'en fait, si vous aviez le titre de sexologue, vous ne pourriez pas nécessairement partager vos propres expériences. C'est ce que je comprends.
Exactement.
Il y a quand même un code de déontologie et tout. Alors voilà, ça vient avec. Mm-hmm. D'accord. Alors, on a mis ça au clair maintenant. Qu'est-ce que vous apportez effectivement de différent? D'abord, vous êtes deux amis. Alors, vous vous êtes rencontrés à l'université et là, vous avez décidé comme ça de partager une passion commune, qui était la sexualité et puis de faire partager vos expériences. Vous aviez des idées, au fond. Vous aviez des idées là-dessus et peut-être avec vos amis, tous les gens qui vous entourent. Alors, vous avez eu l'idée de faire ces balados. Alors, qu'est-ce qui est la particularité même de ces balados?
La mission du balado, c'est d'apporter les bonnes informations, mais tout en restant divertissante. Mmh. Fait qu'on a décidé d'un peu lier le côté universitaire et personnel. Donc, on a décidé de se mettre de l'avant, de parler de nos expériences, de nos anecdotes, tout en donnant la bonne information. Donc, le balado reste un balado de divertissement. Si on parle de relations amoureuses, de relations intimes, on va se baser sur nos expériences en donnant les bonnes informations. Mmh.
Puis je pense que ça se trouve aussi dans la chimie de Rosie et moi. On s'est rencontrés au bac en sexologie, puis notre amitié est née de notre amour de la sexologie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans des séances d'études en Zoom pendant la COVID à l'université. Oui. Fait que je pense que ça donne la couleur au balado, puis les gens l'entendent quand ils écoutent le podcast aussi.
Je me posais la question. Donc, vous parlez de vos vies personnelles, de vos expériences personnelles?
Oui, absolument. Ouais. Les gens ont vraiment... ça explique pourquoi on ne fait pas partie de l'ordre non plus. Ouais. Si on savait toute la vie personnelle, sexuelle, intime de notre psychologue, ça ferait pas de sens. Donc, nous, c'est la même chose. Mm-hmm. On met de l'avant notre vie personnelle, donc on est conscient qu'on peut pas faire partie de l'ordre. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'informations sur nos vies personnelles, mais on a fait ce choix-là très conscient parce qu'on a réalisé que c'est de la façon dont on pouvait le mieux aider les gens. Quand les gens se sont identifiés à nous, les messages qu'on reçoit, c'est « je m'identifie dans l'histoire que tu as racontée à tel épisode ». Ça me fait du bien de voir que quelqu'un vit les mêmes difficultés que moi. Mm-hmm. Donc, pour ça, on a décidé de un peu faire le choix de mettre de l'avant autant d'informations intimes et personnelles parce qu'on se rend compte que ça aide les gens.
Oui, c'est aussi un outil de vulgarisation scientifique de parler de nos expériences. C'est comme un médium plus rapide pour aller casser les tabous. Quand on
aussi,
parle de sexe.
Oui, c'est vrai. Parce que vous abordez toutes sortes de sujets. Mm-hmm. Et puis, effectivement, d'abord, mettons ça au clair. Est-ce que quand on s'en va étudier en sexologie, c'est que forcément, on a une passion infinie pour la sexualité?
On a une passion infinie pour, je dirais, la sexualité, mais aussi les relations intimes, les relations interpersonnelles.
C'est aussi ça, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Ouais.
C'est beaucoup, beaucoup plus large qu'on pourrait le penser. On a des cours de sociaux, de psycho, autant qu'on a des cours d'anatomie, de neuro, c'est super large comme bac. André puis moi, je pense que le but, ça a été de réaliser à quel point ces informations-là ne sont pas accessibles. Oui. Donc, le but du balado, mais c'est un bac très, très multidisciplinaire.
Et ça touche quel public, là? En fait, vous visez quel public? Quelle catégorie d'âge? Est-ce que c'est assez large aussi?
C'est quand même large.
Oui, notre auditoire se trouve pas mal en 18-35 ans, mais on essaie d'aller chercher des sujets puis des invités aussi qui vont dans d'autres tranches d'âge pour rendre justement cette information-là le plus accessible possible au plus de monde possible. Ouais.
Ouais. Parce qu'on aborde autant, par exemple, le célibat. Ouais. Ça peut être des sujets qui peuvent toucher des gens un peu plus âgés aussi. Mm-hmm. Alors ça, y a plein de choses plein de sujets, je trouve, très, très intéressants et des sujets parfois intimes, dont on n'ose pas parler, même des fois avec nos amis. Finalement, ça peut être des choses... qu'est-ce qui nous dérange dans la sexualité? Ça peut être des choses, d'ordre...
Par exemple, la perte de désir qui est super tabou dans les relations, dans les couples, ça, on va venir l'aborder, puis ça peut toucher n'importe quelle tranche d'âge, n'importe quelle configuration relationnelle. Ouais. C'est super tabou, mais c'est un de nos épisodes de Chouchou, par exemple.
Quelqu'un qui a parlé de son pH vaginal, qui entraînait des problèmes, vraisemblablement aussi.
Mais d'ailleurs, récemment, on a eu cette conversation-là, toi et moi, nous sommes dans la cinquantaine.
Oui.
Et on se disait, on se sent obligé à avoir des relations sexuelles parce qu'on n'a plus d'hommes dans nos vies. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une pression de dire, on est en couple, il faut faire l'amour. Mm-hmm. Alors que c'est pas nécessairement, c'est plus nécessairement ça le couple aujourd'hui. Il y a des gens qui font plus l'amour depuis des années, puis ils sont très heureux ensemble.
Absolument.
Mais il y a une pression sociale, je trouve.
Oui, il y a encore un petit fond de devoir conjugal, là, ce fameux...
Exactement, le fameux devoir conjugal.
Ça reste encore dans les mœurs, là,
Oui, c'est ça. Remarquez-vous que finalement, les préoccupations n'ont pas tellement changé. Mis à part qu'évidemment, les orientations sexuelles sont c'est plus ouvert. Mm-hmm. Évidemment, on le sait. L'inclusion et tout, alors ça, il faut en tenir compte. Il y a plein de choses qui touchent aussi la clientèle LGBTQ+. Mm-hmm. Alors, bien sûr, mais aussi des sujets, des fois, qui nous... que moi, je pouvais entendre dans ma jeunesse, là, puis finalement, tu te dis, mais coudonc, c'est pas encore réglé. C'est-à-dire, on parle encore des mêmes affaires, des fois. C'est fou.
Bien, absolument. On se rend compte aussi, en recevant des gens de différentes générations, qu'on a tous un peu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, mais exprimés différemment aussi. Il y a beaucoup d'avancements, là, on ne va pas se le cacher non plus. Ouais. Mais pour nous aussi, c'est important de rentrer en contact avec différentes générations pour offrir au public quelque chose qui peut s'identifier et pas seulement recevoir des gens de notre âge. Puis, on réalise aussi à quel point... on a tous vécu les mêmes difficultés au final.
Oui, il y a des questions qui vont revenir dans le développement psychosexuel de tout le monde ou presque, mais on voit quand même que les gens sont plus flexibles dans la manière dont ils vivent leur sexualité, dans les scripts, dans la manière dont ils vont appliquer le consentement dans leur relation. Fait qu'il y a quand même une lueur d'espoir dans une sexualité positive, mais il y a certainement des questions qui reviennent. Puis j'écoute des ados parler, puis je me dis, je me posais les mêmes questions il y a 10 ans.
Mais justement, par rapport aux adolescents, c'est une question peut-être un peu crue, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous trouvez que les jeunes, aujourd'hui, leur sexualité est plus débridée qu'elle l'était? Parce qu'aujourd'hui, l'accès à la pornographie... j'ai lu, les compagnies comme Viagra faisaient des pilules pour les plus jeunes. Ils regardent tellement de pornographie que maintenant, ils ont de la difficulté à avoir des érections. Est-ce que la sexualité des jeunes est débridée aujourd'hui?
C'est drôle parce qu'on dirait dans les médias que c'est ça, puis qu'il y a une hypersexualité. Puis nous, au bac, on a beaucoup étudié ce phénomène-là. Et quand tu pousses un peu plus loin, tu te rends compte que si on parle juste de l'âge de la première relation sexuelle, ça fait des dizaines d'années que ça l'a pas changé. Au contraire, ça l'a même augmenté. Parce que l'information est aussi plus accessible maintenant. Et les gens, ont peut-être accès à de la pornographie, mais il y a aussi plus d'éducation à l'école. Je veux dire, il y a quelques années, le gouvernement aussi a mis en place l'obligation d'avoir des cours d'éducation à la sexualité. Donc, on peut penser ça, mais quand on regarde les statistiques, on voit que juste pour le nombre de partenaires, l'âge de la première relation sexuelle, ça n'a pas changé.
C'est même vieilli. Puis, tu sais, ça fait de la logique quand on pense à plus on a de l'information sur la sexualité, qui est l'information fiable sur la sexualité, plus on va être à l'aise de dire non quand on n'a pas envie, plus on va être à l'aise de dire oui de nos envies plus spécifiques. Fait que les contextes dans lesquels les relations sexuelles sont faites pour les plus jeunes vont être plus dans une optique de sexualité positive qu'il l'était avant.
C'est ça. Le développement, au fond, de l'être humain demeure le même. Là, finalement, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Alors, effectivement, qu'on ait des relations sexuelles à peu près à la même période de notre vie, on met toujours l'accent sur les exceptions ou, évidemment, ce qui est plus sensationnel comme info, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous a... c'est-à-dire que, vous en avez fait combien à peu près de capsules
56.
Hey là là.
Ouais, c'est 30 épisodes par saison, puis la deuxième saison est en train de terminer. Là, il reste 2-3 épisodes.
Après. Recevez-vous des personnalités connues?
Mm-hmm. Oui. En fait, c'est on a un épisode chaque lundi. C'est un peu séparé en trois. On a les épisodes nous deux. Mm-hmm. On a des épisodes avec des gens qu'on invite beaucoup pour leur vécu expérientiel. Mm-hmm. Donc, par exemple, une personne trans, on va l'inviter pas nécessairement parce que c'est une personne connue pour mm-hmm. nous parler de son expérience. Et ensuite, on reçoit des personnalités publiques aussi. Fait que c'est les trois sphères d'invités qu'on reçoit ou de seulement nous deux. Mmh. Et on se rend compte que de cette façon-là, on donne un peu la parole à tout le monde. Mmh. Aussi, il y a des gens, des fois, qui nous envoient un message. « Ah, oh, tu sais, je pense que j'aurais quelque chose à vous raconter qui pourrait toucher les gens. » Fait qu'on reçoit autant des spécialistes parce qu'on se considère... Tu sais, au bac, on voit tellement de choses, mais on peut pas être spécialiste de tous les sujets. Mmh. Donc, nous, on trouve ça important d'avoir des spécialistes quand on parle d'un sujet en particulier, que ça soit les ITSS, que ça soit le cycle menstruel, on reçoit des professionnels du milieu.
Puis même chose pour notre expérience, on n'a pas de l'expérience en tout dans notre sexualité, fait que d'où l'importance d'avoir des gens qui ont de l'expérience sans nécessairement avoir l'expertise de leur expérience.
Ouais, non, c'est ça. Alors finalement, c'est très 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 varié. Et puis bon, je pense, en fait, je vous avais reçu quelqu'un aussi, comment elle s'appelle, la comédienne Mélissa.
Oui,
Les Hormones Poulin. Qui, elle parlait plutôt aussi comme parent, tant que parent aussi, par rapport à l'éducation sexuelle des enfants. Je pense que vous avez pu jaser beaucoup avec elle. Est-ce que vous avez un temps minimum? Ça dure combien de temps, ces discussions-là? Oh,
c'est souvent une heure, mais avec Mélissa, ça n'arrêtait plus. On avait tellement de choses à dire.
C'est ça, hein? Vous aviez beaucoup de choses à dire.
Absolument. Fait que ça dépend. Entre une heure et demie, autant qu'il y a des épisodes qui ont duré 2 heures. Ouais. Honnêtement, on se laisse aller. On laisse la discussion se porter comme elle va. Puis ensuite, on voit si... On coupe pas grand-chose des podcasts, fait que souvent, on garde quand même tout, même si la discussion est plus longue.
Puis c'est propice au dévoilement puis au partage d'expérience. Tu sais, c'est un peu le média du balado, d'être dans un espace, de créer un cocon, de créer des discussions qui sont sécuritaires pour les gens qui sont présents. Fait que
vous partagiez comme ça vos expériences, vos conjoints, ex-conjointes, conjointes, peu importe, là, ils en disent quoi?
au début, on se rendait peut-être pas compte que des gens nous écoutaient. Quand on s'est rendu compte que des gens nous écoutaient puis pouvaient peut-être faire des liens aussi,
c'est ça.
Y a une discussion qui a été ouverte. Pour l'instant, on est célibataire, donc ça va. On s'assure de rendre anonyme à chaque fois qu'on parle de quelqu'un maintenant. On a des surnoms et tout. Ces personnes-là n'ont pas demandé d'avoir leur vie exposée sur Internet. Non. Donc, on s'assure de plus le faire. Des fois, il y a eu comme justement des chicanes avec ex-partenaires, etc. Donc, maintenant, on fait très, très attention parce que, comme on dit, nous, on a fait ce choix-là conscient d'exposer notre vie.
Même si c'est anonymisé, on va aller valider avec nos partenaires s'ils sont à l'aise qu'on partage cette expérience-là parce que ça reste très intime, très vulnérabilisant, souvent la plupart des anecdotes.
Il y a des sujets très variés. Ça peut être même par rapport au dating, là, c'est-à-dire combien ça peut coûter finalement d'aller s'asseoir avec quelqu'un comme ça pour faire une rencontre. Alors, il y a toutes sortes d'aspects intéressants. Vous allez aussi, je pense, est-ce que c'est cet automne que vous allez sortir un jeu de cartes ou vous l'avez déjà sorti?
Cet automne.
Qu'est-ce que c'est?
Donc, en fait, André puis moi, on a joué souvent à des jeux de questions. Donc, c'est vraiment comme un jeu de cartes traditionnel avec des questions reliées à l'intimité, la sexualité. Et tous les jeux de cartes sont incroyables et on a décidé d'en faire nous-mêmes la version apéro-sexo. Donc, c'est des jeux que les gens vont pouvoir jouer. Les premières éditions, c'est jouer soit avec ses amis, jouer en date ou jouer plus avec des partenaires avec qui on a une vie sexuelle, une vie intime. Ça pourrait être, par exemple, une question qui demande c'est quoi la plus grosse blessure que tu as vécue relationnellement? C'est quoi la rupture qui te fait le plus mal? Comment tu gères ta colère dans les relations? Fait qu'on essaie de toucher le plus de sphères possible. Donc, on est séparés pour l'instant en 3 éditions et les autres s'en viennent. Ça, c'est le gros projet à l'automne qui s'en vient pour apéro.
Très amusant. Alors, c'est ça. Donc, ça peut être une façon de connaître quelqu'un davantage, justement, lors d'une soirée, d'une date qu'on a. Ben, c'est ça. On peut jouer à ce jeu et puis, bon, découvrir plein de choses. Alors, donc, cet apéro sexo qui est disponible, bon, est-ce qu'il faut s'abonner?
Il y a le balado. Donc, le balado est disponible sur toutes les plateformes et YouTube. Il y a un visuel. Mais on a surtout une page Instagram, c'est apéro.sexo, qu'on fait du contenu éducatif chaque jour. Donc, on fait des capsules par rapport au désir. C'est vraiment très varié, autant humoristique qu'éducative. Et c'est vraiment sur cette plateforme qu'on a la plus grosse communauté. Fait que ça, c'est du contenu tous les jours.
Et toujours pour les 18-35 approximativement.
On veut que ce soit pour tous, mais c'est vrai que la plupart de nos auditeurs sont 18-35.
Si j'ai un enfant de 15 ans, je lui dis pas...
Ben en même temps, l'enfant de 15 ans, il va s'éduquer ailleurs. Ben, fait, c'est ça. Tant qu'à ça, c'est un peu notre vision. Les gens vont trouver, l'information ailleurs. Ben, fait,
exactement.
S'ils le trouvent dans la porno, tant qu'à ça, on va les rediriger vers des plateformes qui sont plus saines avec la bonne information. Apéro Sexo, c'en est une. Fait que pour nous, on est à l'aise et on est conscient que des ados nous écoutent. T'sais, ils vont vraiment sentir une... T'sais, on répond aussi à nos messages, on essaie d'aider le plus de gens qu'on peut. Puis on préfère créer cette plateforme-là qu'y aille ailleurs.
Ouais, mais... Exactement.
Exact.
Eh ben, ça a été fort intéressant. Rosie Bertrand et André Bouffard de Apéro Sexo. Alors, évidemment, on va voir qu'est-ce que vous faites absolument dans les balados. Là, c'est très intéressant et sur toutes sortes de sujets.
Merci
beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
Merci. Au revoir.